avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous allons parler de l'enseignement des sciences aujourd'hui. Maths, physique, chimie. Je sens déjà des poils qui se hirsutent, qui se hérissent plutôt. Le prix Nobel de chimie a été décerné cette semaine à 3 chercheurs, dont un Français. C'est pas le genre de prix, c'est vrai, qui va enflammer Instagram. Pourtant, nous vivons dans un monde qui a plus que jamais besoin de scientifiques. Alors pourquoi les sciences intéressent si peu les jeunes, presque partout dans le monde d'ailleurs? Y a-t-il un problème dans la façon d'aborder ces matières à l'école et plus tard au lycée? Nous allons en discuter avec nos invités. Et quant à vous, les voisins, que vous inspirent ces matières? Vos témoignages, vos réflexions de parents, d'enseignants nous intéressent. Appelez-nous tout de suite au 33 1 84 22 71 71 pour dialoguer avec nos invités. Jean-Marie Le Chanoni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes inspecteur de l'éducation nationale en école primaire. Vous proposez avec Olivier Burgère 100 idées pour intéresser les élèves aux sciences. Florian Briand est également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences physiques au lycée Arago à Paris et vous publiez deux drôles de manuels. Alors, il y en a un, ça s'appelle « Faire léviter de l'eau et autres expériences ébouriffantes ». Et puis, l'autre, c'est « Électrocuter un cornichon et autres expériences galvanisantes ». Trois ouvrages en tout, vraiment de salut public, que nous réservons d'ailleurs aux voisins enseignants qui nous appellent et qui nous aident à y voir plus clair dans le débat. On a quelques exemplaires de livres à offrir. Nous serons également en ligne avec Thierry Zomaoun. Sur le continent africain. Il est en ligne en ce moment à Accra, au Ghana. Il est directeur de l'Institut africain des sciences mathématiques. Dans quelques instants, je vous lis déjà des commentaires d'anciens élèves traumatisés par ces matières maths, physique, chimie. Patrice, à Porto Novo, non, lui, il commence par citer Einstein pour comprendre le fonctionnement de ces matières. Si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution. Il avait vraiment dit ça ?
Einstein. Concernant ce problème-là, je ne sais pas. Einstein est... Moi, ce que je retiens de lui, c'est il avait parlé lors d'une interview sur qu'est-ce qui, d'après lui, faisait qu'il avait été attiré par les sciences. Et son souvenir à lui, c'est un cadeau qu'il avait reçu à l'âge de 5 ans, une boussole. Et dans son souvenir, cette boussole était quelque chose qui l'intriguait. Pourquoi, quelle que soit ma position, je me tourne, cette aiguille est toujours dans la même position. Et c'est ce que je retiens d'Einstein, c'était ce cadeau à un très très jeune âge qui lui avait
une boussole.
Petit peu... Voilà.
Richard, à Port-au-Prince, en Haïti, nous dit que les profs ont tendance à faire de ces cours un calvaire. Ces matières, ça devient une épreuve, comme l'ascension de l'Everest en temps de pluie avec des chaussures cloutées. Vous apprécierez la métaphore. Ousmane, à Bamako, au Mali, personnellement, les maths me font dormir. Je rêvais de devenir médecin, ça n'a pas été possible. Effectivement, en dormant, c'est difficile de soigner. Ibrahima, à Dakar, depuis que je suis au lycée, je n'aime plus les maths. Je n'arrive pas à me concentrer pour faire mes exercices. Un jour, mon prof m'a demandé si j'étais littéraire ou scientifique et je lui ai répondu « je suis un peul ». Si c'était à refaire, je me motiverais plus à aimer cette matière parce qu'en fait, j'aurais aimé devenir économiste. On a beaucoup d'auditeurs qui insistent sur finalement le fait que les enseignants opposent tout le temps les matières littéraires et scientifiques. Vous voyez de quoi ils veulent parler ?
Oui, moi je vois un peu ce dont ils veulent parler. En même temps, moi c'est ce que je répète souvent à mes élèves, puisque je suis professeur, c'est que certains grands scientifiques, comme Descartes, étaient à la fois des littéraires, des philosophes, et en même temps des mathématiciens, des physiciens, et il y a un lien entre les deux, hein. C'est justement cette logique cartésienne, cette démarche scientifique, cette démarche, elle s'applique aussi bien aux sciences qu'à la philosophie.
De même, le lien entre les mathématiques, par exemple, et les arts, la musique. Hein. On dit beaucoup que de grands musiciens sont de très bons mathématiciens.
Et il y a de plus en plus d'artistes aussi qui s'inspirent de découvertes scientifiques. Ça a été le cas à l'époque du pointillisme, de l'impressionnisme, sur toutes les recherches qui étaient faites sur les couleurs. Et encore aujourd'hui, il y a des artistes qui utilisent des technologies très très modernes pour fabriquer leurs œuvres d'art.
Saïd Tamboudé est aux Comores. Les maths, la physique font peur parce qu'on est davantage focalisé sur le parcours que sur la compréhension.
Il y a certains professeurs, effectivement, qui axent beaucoup là-dessus. Hein. Et moi, ça m'attriste, hein, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de professeurs qui fonctionnent autrement et qui partent aussi, justement, de l'expérimentation et qui font en sorte que ça éveille la curiosité des enfants. Et ensuite, effectivement, on a besoin à un moment de passer à une forme de modélisation théorique.
Il y a quand même des formules qu'il faut mémoriser.
Il y a quelques formules qu'il faut mémoriser, mais il est vrai aussi, et là, peut-être plus... dans le premier degré où les enseignants à l'école primaire, voilà, avec les jeunes élèves, on a aussi un certain nombre d'enseignants qui sont beaucoup dans la connaissance. Dès lors qu'ils entament leurs séances de sciences, ce sont des séances de connaissance plus que de démarches scientifiques, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Mais en même temps, on peut aussi les comprendre parce que transmettre de la connaissance, c'est rassurant.
C'est ça. Davantage que transmettre du tâtonnement.
Et que de mettre en place des démarches, surtout pour des enseignants qui sont polyvalents dans le primaire.
Fernamba est auditeur, il est à N'Djamena au Tchad. Il nous dit les sciences, c'est ce qu'on vit au quotidien. Il suffit tout simplement de bien observer tout ce qui nous entoure et chercher à comprendre les mécanismes. D'ailleurs, si vous nous écoutez en direct sur RFI, allez faire un tour sur la page Facebook de l'émission. On est en train de poster des petites vidéos d'expériences ébouriffantes. Notamment, il y a le sachet de ketchup qui remonte tout seul ou qui descend tout seul dans une bouteille d'eau. On va en discuter tout à l'heure. Appelez-nous maintenant, les voisins, les voisines, au 33 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Le sachet de ketchup qui monte ou qui descend dans une bouteille d'eau, j'ai oublié de terminer. C'est pour illustrer la poussée d'Archimède. On donne la parole à une auditrice qui nous appelle au 33 84 22 71 71. Bonjour Éléonore.
Bonjour Emmanuel.
Vous nous appelez de Lomé au Togo. Soyez la bienvenue. Alors, vous êtes une ancienne élève traumatisée ou qui aime les sciences ?
Traumatisée, qui a ensuite aimé les sciences. Traumatisée parce que au sein de mon professeur, mon maître, il nous donnait souvent des problèmes à résoudre à midi, donc pour la pause déjeuner. Et celui qui trouvait la solution pouvait rentrer. Les autres, ils restaient en classe pour la pause déjeuner. Donc, ça m'a un peu traumatisée. J'étais souvent celle qui restait en classe.
Oui.
Et c'est en terminale que mon professeur de mathématiques a pris sur lui de faire aimer la matière à ceux qui ne l'aimaient pas et de la faire comprendre aussi.
Oui.
Donc, il nous faisait des cours de renforcement gratuits.
Ah oui, très donc, investi.
Des cours de renforcement gratuits, oui. Il nous a vraiment fait aimer cette matière. Il expliquait d'une manière très simple. Et par la suite, beaucoup ont compris. Moi aussi, j'ai compris. J'avais même 16 de moyenne par la suite parce que de la sixième en première, je dirais, j'avais que des 4, des 5. 5 même là, déjà, c'est un espoir.
Oui. Ah oui, donc les fameux problèmes de midi de votre prof dans les classes précédentes, ça ne marchait pas du tout. Là où il fallait rester, on ne pouvait pas partir, quitter la salle tant qu'on n'avait pas résolu le problème.
Oui, parce que des fois, je préférais même ne pas régler le problème et rester juste là parce que je sais que je ne trouverai pas la solution. Donc, je ne me fatiguais pas à résoudre le problème.
Merci beaucoup de nous avoir appelés, Éléonore. On a bien compris que beaucoup de vos témoignages à tous pointent du doigt tout de même les enseignants. Je ne sais pas si c'est si simple, mais comment vous réagissez à ce premier témoignage ?
De ce que j'entends de ce témoignage, c'est qu'on est là dans une vision de l'enseignement des sciences où on a un problème et un problème, il y a forcément une solution, il ne peut y en avoir qu'une. Évidemment, si on ne la trouve pas, voilà, on reste le temps du midi. Bon, ce n'est pas le cas partout, heureusement, mais ce qui, moi, me semble important pour essayer de dédramatiser justement cet enseignement des sciences, c'est d'essayer de faire comprendre qu'en sciences, oui, on peut avoir une question qui nous pose une problématique, mais face à ça, il n'y a pas forcément une solution, il y a des solutions. Et on a le droit de se tromper, on a le droit à l'erreur. Et j'aurais envie de dire, moi, c'est ce que j'aime dans les sciences, c'est ce qui me passionne dans les sciences, parce que je crois que c'est vraiment une discipline où on peut se tromper. Le tâtonnement est quelque chose de central dans cette discipline. Et peut-être que cette personne n'a pas eu la chance d'avoir des enseignants qui étaient dans ce principe.
Alors avant de parler de tâtonnement, il faut déjà qu'on parle de l'indifférence de très nombreux jeunes partout dans le monde pour les sciences aujourd'hui. On a un nouveau prix Nobel de chimie pour la France. J'imagine que vous êtes plutôt assez contents tous les deux. La France totalise, c'est vrai, pas mal de prix Nobel en sciences. Mais est-ce que ça ne masque pas une réelle indifférence, finalement, des sciences chez la plupart des jeunes aujourd'hui?
Oui, on peut parler d'indifférence, peut-être aussi d'ennui. Ça rejoint le témoignage de l'auditrice. Parce qu'en fait... souvent on pose des problèmes aux élèves et des problèmes qui ne les concernent pas. Donc ils ne se sentent pas investis dans la résolution de ce problème puisque voilà, ça ne les rend pas spécialement curieux. Donc ils ne vont pas s'investir pour essayer de comprendre les tenants, les aboutissants. Il n'y a aucune raison que ça les intéresse. Alors que si justement on essaie d'effacer cette indifférence en leur proposant des problèmes qui eux les touchent dans leur quotidien, d'un seul coup ils vont se mettre à réfléchir, ils vont vouloir essayer de trouver la solution. Donc c'est aussi ce sur quoi on va faire travailler les étudiants, les élèves, les enfants, qui va faire qu'ils vont essayer de chercher, de réfléchir.
Les enfants, naturellement, sont très facilement captivés par les expériences, par les sciences en général, ou pas ?
Pas nécessairement, même si j'avoue que c'est quelque chose qu'on a tendance à dire facilement, l'enfant est naturellement curieux. Peut-être, dans l'absolu, mais moi, ce que je constate, c'est que cette curiosité retombe très, très vite. La curiosité doit être nourrie. Et peut-être, sur cette problématique des sciences, il nous faut, dans l'enseignement, pouvoir nourrir toujours, toujours cette curiosité. Mais au niveau aussi parental, on en parlera peut-être, ou des adultes qui gravitent autour d'un enfant.
Oui, par exemple.
Même les parents, je prendrais une assertion assez connue. On imagine un papa d'élève qui va récupérer son enfant à la fin des cours.
Qui lui-même a été traumatisé par
les sciences. L'enfant est traumatisé parce qu'il a raté son contrôle de mathématiques ou de sciences physiques. Et le papa qui lui dit « Ah, t'en fais pas mon fils, j'étais pareil à ton âge ». Et je pense que là-dessus, justement, il faut peut-être s'interdire ce genre
première de... Gaffe.
Première gaffe. Première gaffe, se l'interdire, peut-être évoquer avec son enfant quelques exemples de grands scientifiques qui ne viennent absolument pas de lignée scientifique. On pourra peut-être en parler. Et puis, peu importe peut-être la note ou le résultat de ce contrôle, c'est avec son enfant, dès le plus jeune âge, si on se montre curieux, si on questionne, même en faisant la cuisine, je fais ma vinaigrette et puis je vois ce vinaigre qui ne se mélange pas avec cette huile. Et puis derrière, il y a la notion de mélange homogène, hétérogène. Mais peu importe, tiens, mais pourquoi ça ne se mélange pas? Ou pourquoi j'ai laissé ma vinaigrette et d'un seul
c'est
coup...
C'est bien pour ça qu'on a besoin de vos livres, là, de vos guides. Ouais. Mais ceci dit, Florent Burillon, vous avez enseigné aux États-Unis.
Oui, moi, c'est une expérience justement à partir de laquelle j'ai écrit mes deux livres. Parce que la pédagogie que j'ai découverte là-bas est complètement différente, en tout cas à l'époque, était complètement différente de ce qu'on faisait en France. Et ça m'a un peu ouvert les yeux.
Différente parce qu'à partir d'expérimentations.
Différente parce que plus ludique. Pour vous donner un exemple.
Quel niveau ? Collège, lycée ?
C'était collège, niveau collège, donc de la 6e à la 3e. Et le directeur de l'école m'avait proposé de faire une science fair. Donc c'est quelque chose d'assez classique aux États-Unis et qu'on voit dans les séries américaines où les enfants doivent travailler sur un projet. Souvent on les voit construire un volcan et puis voilà, ils mettent le volcan en effusion. Et c'est vrai que c'est des projets qui sont très motivants pour les élèves parce qu'après en plus ils vont les présenter devant les parents, devant leurs copains, devant les autres professeurs. Donc ils font une grosse foire des sciences où tous les élèves présentent en même temps tous leurs projets, les gens circulent, regardent. Et donc c'est vraiment une fête autour des sciences. Voilà, donc il y a ce côté ludique qui est vraiment... qui attise la curiosité des enfants.
Mais est-ce que pour autant, l'ensemble des petits Américains est davantage intéressé par les sciences ? On se souvient du prix Nobel de physique Georges Charpa, qui s'est particulièrement investi dans la démocratisation des sciences, avec les expériences la main à la pâte, qui ont commencé d'ailleurs à Chicago, me semble-t-il. Mm-hmm. Mais le bilan, finalement, à l'échelle d'un pays, est-ce qu'on se heurte toujours au même désintérêt ? Ou est-ce que vraiment, aux États-Unis, on peut observer, par rapport à un pays comme la France...
Alors, je ne connais pas le bilan, je ne connais pas les statistiques, mais c'est vrai que quand on discute avec des Américains, avec l'Américain lambda, si je puis dire, ils ont des notions d'ordre de grandeur, ils connaissent des grands scientifiques et ils en sont fiers. Eux, ils ont Benjamin Franklin, voilà, il a participé à l'indépendance des États-Unis, mais aussi, c'était aussi un très très grand scientifique. Et ils sont très conscients de ça. Et ils ont une vraie curiosité pour les sciences, même si c'est vrai que souvent, ça reste à un niveau assez superficiel. Mais au moins, ils n'ont pas cette indifférence dont on parle depuis le début hein, de l'émission. Et parfois aussi, ce rebut face aux sciences.
Hein. Ouais, Florian, Jean-Marie Le Chanoni, sur le côté des expériences, vous nous le disiez, les enseignants, avant qu'on démarre cette émission en direct, les enseignants aiment bien arriver tout de suite avec de la connaissance. Pourquoi cela ? Est-ce que ça tient à leur formation ? La peur de, finalement, d'avoir l'air de s'amuser en classe ?
Alors, la peur d'avoir l'air de s'amuser en classe, je ne pense pas. Heureusement, on a quand même beaucoup d'enseignants qui estiment que la classe, c'est aussi un lieu où il faut prendre plaisir et où il y a de l'enthousiasme. Non, mais dans les écoles primaires, les enseignants sont polyvalents. Et en fait, quand on regarde le recrutement, on a quand même très, très peu d'enseignants qui sont issus de formations scientifiques. Donc, au moment de faire leur séquence de sciences, c'est là où peut-être certaines peurs apparaissent. Et ce que je disais tout à l'heure, mais finalement, se dire sur telle thématique, je ne sais pas, la classification du vivant ou la digestion, je ne sais quoi d'autre, qu'est-ce que je dois apporter comme connaissance ? Je regarde un ouvrage, je l'ouvre et je le fais. Et en fait, être dans une démarche ou dans du tâtonnement, comme on parlait tout à l'heure, c'est ne pas toujours savoir où est-ce que je vais aller avec mes élèves. Et je crois que la vraie peur, elle est là. C'est parce qu'ils sont, très honnêtement, tous les enseignants sont capables de mettre en place une démarche scientifique, du tâtonnement, des expériences. Mais voilà, c'est est-ce que ça va marcher à tous les coups ? Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais ? Comment je m'en ressors ? On peut toujours s'en sortir, parce qu'il faut dédramatiser. Une expérience qui ne se passe pas comme on le souhaitait, quelque part, on a appris quelque chose.
Là, on parle bien de la physique et de la chimie. Pour les maths, on ne peut pas faire d'expérience.
Il faudrait demander à un professeur de mathématiques, mais pour tout ce qui est géométrie, c'est des choses qu'on peut voir dans l'espace. On peut faire des expériences avec des cubes, des rectangles, des triangles. J'imagine que c'est tout à fait faisable.
Oui, tout à fait. Mais la géométrie, oui, dans l'espace, s'y prête, je pense, pas mal. Mais aussi tout ce qui est de l'ordre des défis mathématiques, ça a tendance à se développer. Moi, en école primaire ou même dans des liaisons interdegrés entre les écoles primaires et puis les collèges 6e, 5e. Mettre les élèves en défi scientifique, ils sont 4 ou 5 autour d'un problème, c'est des fois plus motivant d'être seul face à son problème, comme on entendait l'auditrice tout à l'heure.
Il y a énormément d'initiatives quand même aujourd'hui partout dans le monde, de gens comme vous qui éditent des livres, des guides ludiques pour faire des expériences, des défis mathématiques, des jeux, des fédérations de jeux mathématiques, etc., hein, qui se parlent d'un pays à l'autre. Mais on a l'impression que c'est un peu un monde parallèle finalement. Que l'ensemble des jeunes ne se sent pas vraiment concerné par toutes ces initiatives, même si elles foisonnent, même si elles marchent d'ailleurs. Mais est-ce que ce n'est pas un succès finalement de niche ?
Oui, ou bien l'effet maître ou l'effet équipe, c'est-à-dire à un endroit on met ça voilà. En place et c'est vrai que ça va... Oui, c'est une réalité. On n'a pas des défis mathématiques dans tous les établissements. On n'a pas des enseignants qui fonctionnent avec l'esprit du tâtonnement,
d'expérimentation. Il faudrait que ça soit le cas, vous trouvez ? Que ça soit systématique, des défis mathématiques, des championnats de maths, etc.
À titre personnel, oui.
Et paradoxalement, en tout cas pour un pays comme la France, les maths, la physique, la chimie, bah c'est quand même une gare de triage qui sert à sélectionner les élèves. C'est pour ça que la majorité des élèves veulent aller en filière S quand ils le peuvent.
Oui, alors là, on hérite aussi d'une culture, tout à fait. La filière S est aujourd'hui la filière sélective. Moi, je le regrette, hein, je vais pas m'en cacher, mais...
C'est vrai que ce sont des matières assez élitistes, mais malgré tout, il y a eu des changements de programme ces dernières années où justement on a reproché aux sciences d'être des matières de plus en plus littéraires, où il fallait rédiger, il fallait argumenter.
Oui, alors on en perd son latin. Adou Manjamena nous dit, moi mon prof de maths m'a transmis une peur de cette matière en me disant que c'était pas fait pour tout le monde. Du coup, à chaque cours de maths, je me rappelais cette phrase et j'ai été totalement découragée jusqu'à en avoir peur. Vous restez avec nous, on reprend la discussion et on prendra aussi Thierry Zomaoun en direct d'Accra dans 3 minutes.
Radio Foot. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On parle de l'enseignement des sciences aujourd'hui, maths, physique, chimie. Comment interroger, intéresser les jeunes et les interroger d'ailleurs à ces matières qui les inquiètent profondément. On l'a constaté à la lecture de pas mal de messages. Les profs doivent-ils se remettre en question? Est-ce que c'est vraiment un problème finalement de système, un problème de mentalité ou bien les politiques qui pilotent les politiques d'éducation qui sont d'ailleurs rarement des scientifiques passionnés eux-mêmes, ou peut-être qu'un scientifique passionné ne peut pas être un bon politique, ça je ne sais pas, mais c'est un autre débat. Jean-Marie Le Chanonnier, vous êtes avec nous, vous publiez « 100 idées pour intéresser les élèves aux sciences », vous êtes inspecteur de l'éducation nationale en France. Florian Briand, vous êtes un prof de sciences physiques en lycée, vous publiez des guides « Faire léviter l'eau et autres expériences ébouriffantes », et puis également « Électrocuter un cornichon et autres expériences galvanisantes ». On peut électrocuter autre chose qu'un cornichon si on n'a pas de cornichon sous la main.
C'est mieux avec un cornichon, mais on peut aussi essayer avec un citron confit. Le cornichon, c'est bien parce qu'il a macéré dans la saumure, dans ce mélange d'eau salée. Et c'est ça qui va donner ses propriétés au cornichon de pouvoir être électrocuté et produire de la lumière.
Et on démontre quoi avec cette expérience?
On démontre comment on fait de la lumière. Parce qu'il n'y a pas 10 000 façons de faire de la lumière, soit en chauffant un corps, soit en excitant un gaz. Et c'est ce qui se passe dans le cornichon. Le cornichon, il marche comme un tube néon, comme les néons qui nous éclairent au quotidien.
On a quelques exemplaires à offrir aux auditeurs qui apporteront les meilleurs témoignages, les meilleures analyses pour éclairer notre débat de ces guides, de ces ouvrages. Appelez-nous pour participer au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un voisin qui nous appelle de Dakar. Bonjour Claude.
Oui, bonjour.
Vous êtes béninois, je crois. Vous travaillez à Dakar, oui. Vous êtes enseignant?
Je suis béninois originaire d'Akodeha, une région du Bénin du Sud.
Oui.
Je suis en recherche doctorale à Dakar, au Sénégal, bien sûr.
Oui. Et vous faites un doctorat de quoi, alors?
En agronomie, agroalimentaire.
Mmh. Et vous avez enseigné pendant 5 ans, je crois, la physique, chimie, biologie en collège?
Oui, oui.
Alors, quelles sont vos constatations par rapport à vos élèves, à vos pratiques d'enseignant?
Alors, moi, je voudrais bien résumer très rapidement cette question d'enseignement des sciences en 3 points. Et si vous le permettez rapidement, je voudrais simplement dire que tout dépend d'abord de comment la discipline est présentée aux apprenants.
Oui.
Parce que l'amour ou bien l'élan pour la science, tout ça se révèle à partir, bien sûr, d'un modèle. Un modèle qui ne peut qu'être le professeur qui, une fois, a séduit l'apprenant et du coup, qui trouve goût à cette discipline.
Mmh.
Et deuxième chose, c'est également un problème de transposition du système d'enseignement classique des universités au lycée. Parce que ça s'observe beaucoup dans les pays africains où il y a de plus en plus une part de contournement des écoles normales de formation où tous ceux qui sont aujourd'hui enseignants dans les systèmes de collège et lycée ne conviennent pas forcément des écoles normales.
Oui.
Alors, les mathématiques plus les sciences physiques plus qu'on a reçues à l'université, on a tendance à enseigner de la même manière au lycée ou bien au collège, alors que ce n'est pas le même niveau d'enseignement, ce n'est pas
c'est
la
ça.
Même manière
vous voulez dire qu'ils ont, ils ont finalement étudié ces matières, mais ils n'ont pas appris à les enseigner.
À les enseigner, voilà. Donc, il faut vraiment pas aussi oublier cet aspect.
Ouais.
Et le troisième aspect, c'est aussi l'image que le professeur de sciences veut se donner. Ah oui, c'est moi qui ai fait les études mathématiques, c'est moi qui ai fait les études de sciences physiques, qui ne sont pas des études destinées à tout le monde. Et tout de suite, pour se donner une image, parfois vis-à-vis de ses collègues, il y en a qui donnent des devoirs très compliqués, des exercices très compliqués, parce que les épreuves sortent. Donc, quand mon épreuve va sortir, il faut que les autres collègues puissent savoir que je donne des exercices aussi durs et donc c'est moi qui suis donc l'enseignant qui fait beaucoup les mathématiques ou bien les sciences physiques, ainsi de suite. Donc, parfois, les élèves sont confrontés à ces genres d'épreuves parce que l'enseignant se dit, je dois donner une épreuve à la taille pour que mon collègue de l'autre côté, quand il va voir, qu'il sache que c'est moi qui sais dérouler les épreuves de maths, bien c'est moi qui sais corriger les exercices les plus difficiles de mathématiques.
En gros, un enseignant vache, c'est un bon enseignant finalement. C'est un enseignant un peu vache avec ses élèves, un peu dur, oui. Va être considéré comme un meilleur enseignant. C'est un peu ça, si je vous comprends bien, Claude. Une forme de compétition
Un peu vis-à-vis de ses collègues, parfois.
Je ne sais pas quelles sont vos réactions à tous les deux.
C'est sûr qu'il y a un effet de reproduction. Les enseignants ont été des élèves avant et ils ont réussi à devenir eux-mêmes professeurs parce que voilà, ils étaient adaptés à ce système éducatif et ils ont tendance à reproduire exactement le même système quand eux ils se mettent à enseigner. Bon, il faut réussir à s'extraire de ça et laisser avant tout la passion s'exprimer, comme disait l'auditeur. Avant tout, un bon enseignant c'est aussi un modèle et c'est quelqu'un de passionné qui va parler de sa matière.
Est-ce que vous, par exemple, vous êtes connu pour être un prof de physique-chimie qui donne des exercices impossibles ?
Écoutez,
au contraire, tout le monde a des bonnes notes chez
vous. Je vais passer pour un mauvais prof parce que je donne très peu d'exercices à faire à mes élèves.
Ah, c'est pour ça que vous êtes si populaire. Alors.
Exactement, les élèves m'adorent, les parents peut-être un peu moins, mais je ne donne pas beaucoup d'exercices et j'ai des très bonnes notes. Enfin, mes élèves ont des très bonnes notes parce que peut-être que je les surnote, j'en sais rien.
Au baccalauréat
Au baccalauréat, je trouve que ça se passe bien. Donc je me dis qu'au fond... Je fais peut-être pas tout si mal que ça.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Claude, pour ces constatations extrêmement intéressantes en tant que professeur de physique-chimie. Et bonne chance pour la fin de votre doctorat à Dakar. Nous accueillons au téléphone Thierry Zomaoun, directeur de l'Institut africain des sciences mathématiques. Bonjour, monsieur Zomaoun.
Bonjour, Emmanuel. Bonjour, les voisins.
Vous êtes en direct d'Accra, cet institut africain des sciences. Aujourd'hui, il y a 6 centres hein, sur le continent africain. Donc c'est l'IMS, hein, African Institute for Mathematical Sciences. Il y a un centre en Afrique du Sud, au Cameroun, au Rwanda, en Tanzanie, au Sénégal, au Ghana. À quoi sert cet institut aujourd'hui en Afrique ?
En fait, cet institut, Emmanuel, sert à révolutionner les modèles et systèmes de formation en sciences mathématiques sur le continent africain. On est parti d'un certain nombre de constats que si on continuait à évoluer dans le sens des politiques éducatives aujourd'hui, surtout dans les disciplines mathématiques, on risque de pénaliser encore pendant des décennies ce continent. Je vous donne un exemple simple. Je vous appelle, comme vous l'annoncez, d'un pays, le Ghana. Il y a une grande nation africaine, mais en 50 ans, ce pays n'a formé qu'un seul titulaire de doctorat en mathématiques.
Ah oui ?
En 5 décennies.
Oui.
En 50 ans, toutes les universités ghanéennes réunies. C'est absolument inacceptable. Et donc, la première chose qui a mené à la création de l'Institut panafricain des sciences mathématiques, c'est de révolutionner les modèles de formation inadaptés aux réalités d'aujourd'hui. D'essayer un peu d'établir une parallèle entre les cultures éducatives, notamment francophones et anglo-saxonnes. Francophones, comme vous le savez, ils mettent beaucoup plus l'accent sur les connaissances livrées à fond
oui.
et les théories, alors que la culture éducative anglo-saxonne priorise un peu l'expérimentation, l'acquisition des compétences, et puis l'expérimentation.
Oui, c'est ce que nous disait Florian Briand, hein, qui est prof de physique-chimie dans le studio et qui a enseigné également aux États-Unis. Et vous nous le disiez, hein, il y a une culture de l'expérimentation, une culture plus ludique, une approche plus ludique de ces matières-là. Hein, c'est bien cela. Hein.
Exactement. Et puis peut-être que la meilleure efficacité se trouverait dans un entre-deux, entre ces deux philosophies, la philosophie francophone, la philosophie anglo-saxonne.
Oui, ceci dit, ça n'empêche pas le Ghana de n'avoir formé qu'un seul doctorant en mathématiques. En 50 ans, vous venez de nous le dire, monsieur Zomaoun.
Absolument.
Un pays anglophone.
Oui, nous voyons qu'il n'y a pas à opposer les deux cultures, il y a établi la passerelle. Aujourd'hui, les résultats sont probants. Ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'on a pu former environ 1200 étudiants provenant de 42 pays africains au niveau master et puis doctorat. Et on les forme non pas seulement pour la beauté des équations mathématiques, mais à résoudre les problèmes et les défis majeurs de développement auxquels l'Afrique est confrontée. Et nous avons nos chercheurs et professeurs qui viennent des 35 pays, y compris la France, des professeurs de Sorbonne, et puis des universités de Lyon, des médiaires français comme Cédric Villani, qui enseignent dans nos centres d'excellence. Comment établir la collaboration scientifique internationale autour de la science, des sciences mathématiques? C'est l'une des axes sur lesquels nous sommes en train de travailler. Mais Emmanuel, je dois ajouter qu'il y a quelque chose dont nous ne parlons pas souvent. et dans le contexte africain, qui est très important, la faible représentation des femmes dans les disciplines mathématiques est un problème majeur qu'il faut régler sur ce continent.
Tout à fait. On a reçu d'ailleurs des messages hein, de jeunes filles qui nous disaient non seulement, bon, c'est vrai que l'ensemble des élèves est assez paniqué par ces matières, mais encore plus lorsqu'il s'agit des filles. Restez en ligne avec nous, Thierry Zomaoun. Bien sûr, vous intervenez quand vous le souhaitez, Florian Briand, Jean-Marie Le Chanonnier. Je voudrais que nous accueillions un autre auditeur après Claude qui soulignait bien en tant qu'enseignant le problème de ces étudiants qui ont certes étudié la physique, la chimie ou les mathématiques, mais qui n'ont pas étudié la pédagogie, la façon de transmettre ces connaissances-là ou ces raisonnements. Je voudrais qu'on donne la parole à Fataou qui est à Parakou au Bénin. Bonjour Fataou.
Oui, alors bonjour Emmanuel.
Vous êtes prof de maths en collège-lycée au Bénin, c'est bien cela au lycée?
Oui, moi j'enseigne les mathématiques au cours secondaire et je n'ai jamais été moi formé à la pédagogie de l'enseignement.
Oui.
Ma spécialité, bien sûr, est la gestion des productions industrielles.
Oui.
En effet, moi, j'ai découvert une méthode depuis que j'étais sur les bancs, c'est-à-dire élève, et laquelle méthode m'a, moi, permis de mieux affronter les mathématiques.
Mmh.
Et aujourd'hui, moi, j'essaye d'expérimenter, de l'adapter à mes élèves.
Oui.
Je ne voudrais pas, donc, qu'ils aient peur des mathématiques et des sciences en général.
Oui.
Ainsi donc, pour aborder une notion, moi j'essaie de faire un peu historique, je l'illustre et je la ramène au besoin en langue locale, puis je l'adapte à des réalités sur le terrain ici au Bénin.
Mm-hmm.
Je me mets donc dans la peau de mes élèves afin que je puisse mieux passer mon message.
Mm-hmm. C'est ça, vous n'avez pas été formé pour enseigner les sciences, mais vous avez été formé à la gestion de production industrielle. Comment est-ce que vous établissez une passerelle finalement? Parce que ça, c'est assez concret. Est-ce que ça vous aide finalement à faire passer les sciences de manière assez concrète?
Bon, il faut dire que je suis un spécialiste de gestion de production, mais vous savez, au Bénin, moi, je suis en tant qu'honoré, je dispense ces cours pas en tant que spécialiste de l'enseignement, mais en termes d'honoré. Juste pour, comment le dire, un à côté. Je fais cela pour un à côté, sinon je suis spécialiste de production, comme je vous l'ai dit. Mais moi, ce qui me tient ici, j'ai constaté qu'au Bénin, ici, il y a beaucoup de préjugés au sujet des mathématiques. Et donc, tous ceux qui... Bon, en mathématiques, on les perçoit, on les conçoit au Bénin ici comme si c'était des génies.
Mm.
C'est pour cette raison, moi, mon objectif en enseignant les mathématiques, c'est de prouver à mes élèves qu'eux aussi, ils peuvent être capables de bien comprendre et de pratiquer les mathématiques comme tout autre individu qui se qualifie de génie.
Vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant, effectivement. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Fataou, et très très bonne journée à Parakou. C'est vrai qu'il y a souvent cette notion de talent qui intervient, en tout cas pour les mathématiques, pour la physique et la chimie, je ne sais pas. Comment vous ressentez ça, Florian Briand, là-dessus?
Moi, je me sens aucun talent, donc je me dis qu'il n'y a sûrement pas besoin de talent pour faire de la physique ou pour faire des maths. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez répandu et que les jeunes ont intégré. Et c'est dommage, il faut leur enlever ça de la tête. Après, c'est vraiment juste...
C'est ça, cette idée que si on n'a pas été bon dès l'enfance dans ces matières-là, on ne le sera jamais.
Eh oui, non, pour moi, enfin, moi j'ai toujours un point de vue par rapport à la physique et à la chimie. Quand je reçois des élèves au niveau de la classe de seconde, donc ils viennent du collège, souvent, bah, au collège, ils ont vu quelques expériences et ils ont pu être découragés. Mais voilà, en seconde, on reprend tout depuis le début et des élèves peuvent avoir une fascination toute neuve pour la physique, la chimie. C'est jamais perdu.
Jean-Marie Le Chanonnier.
Cette notion
pour
de talent.
L'école primaire.
Oui, voilà, pour l'école primaire, cette notion de talent.
Tout se joue finalement.
J'y crois peu également à cette notion de talent. Mais effectivement, je pense que beaucoup se jouent à un jeune âge. C'est parce qu'on entendait là des exemples dans vos éditeurs de second degré. Et peut-être qu'ils sont aussi... Alors, il y a des problématiques, évidemment, de pédagogie, mais peut-être qu'ils sont aussi face à des élèves où le goût pour les sciences, l'appétence pour les sciences a déjà disparu. Et il y a des fois des choses...
Et donc là, c'est très difficile, alors, pour un prof de lycée.
Et du coup, c'est difficile.
Finalement, c'est pas le prof qui est responsable.
On est d'accord.
Il arrive avec un terrain, avec des élèves qui n'ont plus envie.
Oui, mais parce que je pense que cette appétence, ou même la curiosité à la base, on ne la nourrit pas. Et je crois qu'il est important aussi de se dire qu'on peut faire des sciences en dehors des sciences. Pas toujours cloisonner les sciences au cours de sciences. Je vais prendre un exemple simple, et justement avec de jeunes élèves, on peut jouer des analogies. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple ? Je voudrais une voiture qui court vite comme le guépard. Et puis on demande comme ça à un élève, deux élèves, trois élèves de faire ce petit jeu du « je voudrais qui comme ». C'est faire des analogies. L'analogie, quelque part, c'est mettre en place une sorte d'esprit scientifique. Et peut-être pour mettre en exemple ça, je pense à Georges de Mestral. C'est peut-être un nom qui ne dit pas grand-chose, mais par contre, si je parle de son brevet, de son invention, qui est le velcro, le tissu velcro qu'on retrouve sur tous nos vêtements aujourd'hui, c'est parti de ça.
Le fameux scratch. Hein.
Le fameux scratch, oui, tout à fait. C'est parti de ça. Il se baladait dans la nature, il avait cette plante qui lui collait au pantalon. Il s'est dit, si je pouvais faire un tissu qui, comme la bardane ou comme cette plante, fonctionnait de la même sorte... Il a mené quelques recherches, il a mis en place son brevet. Mais des jeux comme ça, le jeu qui comme, ou les chats, c'est comme les chiens, et les élèves font la suite, ça dure 2 minutes, pas plus. Ça peut même être un interlude entre deux séquences, une séquence de mathématiques, justement, on en sort un petit peu épuisé.
À vous entendre, on se dit que c'est plutôt une séance de cours de français, mais non, c'est déjà du raisonnement scientifique, finalement.
Oui,
c'est vrai que les sciences sont partout. Je trouve ça très intéressant, ce que vous venez de dire. Parce que il y a quelques jours, j'étais en sortie scolaire avec mes élèves au château de Versailles. Donc, on était plutôt dans une ambiance littéraire, historique. Alors non, c'était la professeure de français qui avait organisé la sortie. Mais je les avais accompagnés. Et finalement, les sciences sont partout, parce que voilà, les élèves étaient fascinés par les fontaines. Mais ces fontaines, comment est-ce qu'elles fonctionnent ? C'est grâce à des châteaux d'eau, à de l'eau qui est ramenée depuis très très loin par rapport à Versailles. Et puis après, il y a des histoires de pression pour expliquer pourquoi ces jets d'eau montent aussi haut. Et donc, on peut passionner les élèves comme ça, voilà, par un autre biais que...
Et je pense que là, on touche aussi un point vraiment important pour intéresser les élèves aux sciences. C'est ça, ne serait-ce qu'une sortie scolaire, des fois le temps du pique-nique, le midi... les élèves, jouent ou quoi que ce soit, ça peut être aussi intéressant sur ces moments-là de s'interroger sur des choses. Donc effectivement, la fontaine, il y a beaucoup à dire. Avec des jeunes élèves qui observent des canards en train de se nourrir de quelques miettes de pain, pourquoi ne pas, même si aucun élève se pose la question, nous, en tant qu'adultes, je crois qu'on peut leur dire à nos élèves, tiens, ils mangent des pains. Tu crois que tous les oiseaux mangent du pain ? Voire même des choses plus farfelues, comme on voit un bel envol de cygnes sur le fleuve. Et puis, tiens, tu penses que tous les oiseaux ont des ailes ? Évidemment, les élèves vont répondre, bah oui. Est-ce si sûr ? Mais après, du coup, on engage un débat, on engage une discussion. Et je pense que toutes ces petites choses-là, en dehors des cours, peut-être nous manquent.
Retrouver le bonheur de s'interroger.
Voilà.
Thierry Zomaoun, vous êtes toujours en ligne avec nous à Accra, directeur de l'Institut africain des sciences mathématiques. Vous nous parliez de ces jeunes que vous parvenez à amener jusqu'au master et donc, à qui vous donnez un appétit pour de la science qui est ô combien indispensable sur le continent africain. Plus large pour passer de cette curiosité scientifique à une vraie politique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des décideurs politiques sur le continent africain qui comprennent mieux que d'autres l'enjeu des sciences pour leur pays ? Parce qu'on n'a pas ce sentiment-là.
Emmanuel, je crois que les choses commencent par changer. Aujourd'hui, vous prenez certains décideurs politiques sur le continent africain, ils commencent par comprendre l'importance des sciences mathématiques. Et surtout que si l'Afrique veut pérenniser ses performances économiques actuelles et pendant les prochaines décennies, il faut absolument que le continent investisse plus et mieux dans le domaine scientifique, la recherche scientifique. Vous n'oubliez pas que l'Afrique compte pour moins de 1% de la production scientifique mondiale et seulement 29% dans les filières scientifiques. Il faut que le continent investisse plus et intervienne plus dans le domaine technologique et dans l'innovation,
Mais au-delà de l'engagement des politiques et des décideurs, c'est comment faire en sorte que nous établissions un partenariat scientifique mondial entre le Nord, le Sud et intra-africain pour aider les jeunes africains à voir les sciences pas comme un domaine réservé à certains qui ont des talents spécifiques, mais tout le monde peut faire les sciences mathématiques.
Oui. Quelle que soit son origine sociale, il faut bien le préciser, quelle que soit son origine sociale.
Absolument. Quelle que soit son origine sociale et quel que soit son sexe, les sciences mathématiques sont accessibles à tout le monde. Ouais. On n'a pas besoin de voir un coefficient intellectuel spécial. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire qu'il y a un cliché qui colle à l'Afrique, que, en fait, si le développement des sciences mathématiques ne prend pas, c'est parce que les cultures africaines ne sont pas des cultures rationnelles. Je crois que c'est quelque chose que nous entendons, mais je mets ça sur le compte carrément de l'ignorance et de méconnaissance de l'histoire des sciences mathématiques. Mmh. Comme vous le savez, Emmanuel, les mathématiques sont nées en Afrique, dans le bassin du Congo, avant que le développement ne se poursuive en Égypte et à la Grèce antique. Mmh. Au Congo, à travers la découverte de l'ossement Ishango qui montre il y a 20 000 ans la première séquence des nombres premiers. Donc les sciences mathématiques sont bien, bel et bien ancrées dans la culture ou les cultures africaines. Et donc, ce ne sera pas une excuse et ce n'est pas un cliché qu'il faudra adopter. Mmh.
Justement, parlez-nous des jeunes qui sont dans ces 6 centres que vous dirigez, Afrique du Sud, Cameroun, Rwanda, Tanzanie, Sénégal, Ghana, pour l'Institut africain des sciences mathématiques. Certains d'entre vous vous bluffent carrément?
Absolument. Vous voyez des génies que vous n'auriez pas détectés dans nos universités traditionnelles. Et je pèse mes mots en le disant, je ne veux heurter personne. Vous voyez des jeunes de 19-20 ans qui ont fait la physique, la chimie, les maths dans nos centres d'excellence et qui vous émerveillent par le degré et la capacité d'interrogation, de réflexion critique à remettre en cause certains postulats. Mmh. Et c'est parce que dans nos centres d'excellence, nous avons adopté une pédagogie qui est une pédagogie beaucoup plus axée sur l'acquisition de compétences. Une pédagogie qui met l'enseignant, le professeur aussi renommé soit-il, dans le rôle de simple facilitateur d'acquisition de connaissances et non pas dans le rôle de quelqu'un qui donne des cours ex cathedra et fait ingurgiter des connaissances livrées.
Ouais. Merci beaucoup. Restez avec toujours et qu'on donne la parole. Il nous reste quelques minutes à un auditeur qui nous appelle de Brazzaville du Congo. Brazza, bonjour Trépasse.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes instituteur en école primaire depuis 10 ans, c'est bien cela?
Oui, c'est cela.
Oui, nous vous écoutons.
Et effectivement, je pense qu'il nous faut revaloriser le système éducatif afin de faire évoluer les comportements. Ça, c'est pour le premier point. Et deuxièmement, il y a aussi la didactique. La didactique doit être basée sur des expériences de la vie courante. Mm. Par exemple, en ce qui me concerne, lorsqu'il s'agissait de parler d'enseigner les transformations physiques, je me servais de la glace pour expliquer la fusion et comme ça, mes élèves étaient vraiment intéressés. Et lorsqu'il s'agissait d'enseigner, par exemple, les fractions, je me servais d'un pain que je divisais parfois en 3 pour dire qu'un morceau représentait un tiers de ce pain. Et comme ça, je voyais que mes élèves étaient vraiment intéressés et ils n'étaient pas vraiment effrayés par les mathématiques. Mmh.
L'importance de l'image aussi, important pour vous ou pas dans les méthodes pour entrer dans les raisonnements scientifiques?
Oui, c'est très important parce qu'il faut prendre en compte toutes les capacités différentes de nos élèves. Certains élèves ont une mémoire visuelle, d'autres ont une mémoire auditive, d'autres vont avoir une logique mathématique très rapidement. Donc il faut prendre en compte tout ça et certains élèves vont être percutés par des images et vont mieux retenir en utilisant leur mémoire visuelle. Oui, c'est vrai.
Beaucoup de scientifiques en même temps disent non, il ne faut pas tuer l'abstraction en science.
Avoir recours à des images, c'est pour moi pas tuer l'abstraction, au contraire. Et il est essentiel de pouvoir mettre en image des phénomènes. Tout en science ne peut pas passer par l'expérimentation. On a besoin de voir des fois, on met en place des modélisations, pas toujours possibles en classe. On le montre en images, je pense. On parlait des volcans tout à l'heure, mais des séismes et plein de choses. Je reviens sur l'audit, la personne qui parlait aussi de quel que soit le niveau social. Est-ce que des fois on met en valeur ou en exemple certains scientifiques qui viennent, eux, de niveaux sociaux pas forcément très favorisé. Je pense chez nous, Louis Pasteur, tout le monde connaît Louis Pasteur. Est-ce qu'on sait qu'il est d'une famille effectivement pas très favorisée, que son papa était tanneur? Est-ce qu'on en parle de ces choses-là? Ou Thomas Edison, pareil, qui vient d'une famille très nombreuse, le papa était charpentier. Bon, c'est peut-être aussi des choses qu'on pourrait de temps en temps...
Oui, c'est vrai qu'on a besoin de modèles et on a très peu de temps pour parler d'histoire des sciences avec nos élèves et c'est très dommage parce que voilà, leur donner l'exemple de Louis Pasteur, c'est un très bon exemple. Et puis aussi dans la société en général, à la télé, on a très peu de modèles, de personnages scientifiques. Nous, dans les années 90, moi je me rappelle, on avait MacGyver, voilà, c'était le héros de séries télé et c'est ça, et ça a donné envie à plein de jeunes de faire des sciences. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, bon, les héros sont...
Une espèce de bricoleur de génie. Oui, il voilà, s'en sort dans toutes les situations parce qu'il maîtrise bien certaines notions de physique et de chimie, on va dire. Merci en tout cas infiniment à vous tous. Merci à nos auditeurs. Merci à Trépas, instituteur à Brazzaville. Merci à vous Thierry Zomaoun, directeur de l'Institut africain des sciences mathématiques. On vous laisse poursuivre votre mission sur le continent. Et bien sûr, on peut retrouver tout ça. Vous êtes aussi le fondateur de Next Einstein Initiative. On va mettre tous les liens sur notre page Facebook et sur la page de 7 milliards de voisins. Merci à vous, Jean-Marie Le Chanoni. 100 idées pour intéresser les élèves aux sciences. C'est paru chez Tom Pouce, Florian Briand, professeur de sciences physiques, Faire léviter l'eau et autres expériences ébouriffantes. Et puis également Électrocuter un cornichon et autres expériences galvanisantes. On va envoyer tous ces ouvrages-là à nos auditeurs qui sont profs et qui se donnent du mal pour intéresser les enfants aux sciences. Merci à vous tous pour vos témoignages et à l'équipe Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Lundi, 7 milliards de voisins, nous parlerons des femmes espionnes dans les services secrets français.